Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why I'm hot, hot.
France Culture, 19h, passé d'une minute. On se retrouve donc pour Soft Power, magazine des internets, jusqu'à 20h en direct de la maison de la radio. Bonsoir à tous. Dans moins de 100 jours maintenant, à partir du 30 novembre prochain, la COP21 aux conférences internationales sur le réchauffement climatique aura lieu, et elle aura lieu à Paris. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement feront le déplacement jusqu'au Bourget pour l'occasion. Plus de 3000 journalistes aussi, et des centaines de milliers de militants écologistes seront là également, officiellement, ou plus rebelles, dans les rues de Paris, pour un véritable off de la COP21. Au-delà des enjeux environnementaux et des débats sur le réchauffement climatique, qui sont traités d'ailleurs très régulièrement sur cette chaîne, sur France Culture, il était notamment tout au long de cette semaine spéciale climat, notre émission de ce soir va s'intéresser, elle, plutôt à l'influence de la France à travers cette COP21. Comment ça marche? Ça sert à quoi, un ambassadeur climat? Comment on négocie? Quels sont les dessous d'une si vaste organisation? Pour expliquer ces rouages en détail, je reçois ce soir Laurence Tubiana, ambassadrice climat. Vous êtes, Madame Tubiana, l'ambassadrice de France chargée des négociations climatiques pour la COP21. Bonsoir, bienvenue sur Bonsoir. France Culture. Merci d'avoir trouvé le temps d'ailleurs dans un agenda international chargé pour être avec nous ce soir en direct. À vos côtés, Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bonsoir.
Bonsoir.
Ainsi que Pierre-Henri Guignard, secrétaire général chargé de l'organisation de la COP21. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Donc, je précise d'ailleurs que ce soir, nous allons faire une première émission sur cette COP21 autour des officiels, si on peut dire, en quelque sorte. Nous ferons une autre émission, Soft Power, qui sera consacrée aux ONG, à la société civile, au off, en quelque sorte. Tout cela dans quelques semaines dans cette émission Soft Power. Dans l'actualité ce soir, on évoquera bien sûr l'état des négociations de la COP21 avec vous, Marjorie Paillon,
Bonsoir.
Journaliste à France 24. Bonsoir. Et puis, à 19h10, dans l'alphabet numérique, on s'intéressera, en lien justement avec l'environnement, à l'obsolescence programmée avec vous, Pierre Aski, directeur de Rue 89. De quoi s'agit-il, Pierre ?
Bonsoir. L'obsolescence programmée, c'est l'idée que des objets qui continuent à fonctionner ont été en fait programmés pour tomber en panne, pour vous inciter à en acheter un nouveau, un peu plus vite que prévu par des fabricants peu sourcilleux d'éthique.
On écoutera également ce soir les Canadiens de Metric, le nouveau Prince et l'Américaine Lana Del Rey. Tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, à suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist sur Deezer, ainsi que sur Instagram, Vine, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Vous serez, Laurence Tubiana, la femme la plus sollicitée de France cet automne, la plus courtisée aussi. Revenons peut-être succinctement sur votre parcours. Vous êtes née dans une famille d'intello de gauche, de haut rang en Algérie, arrivée en France, je crois, 11 ans, si je suis bien informé. Vous êtes docteur en économie, spécialiste des questions de développement, ancienne conseillère développement durable de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre à Matignon. Vous avez été responsable de l'IDRI, un centre de recherche sur le développement durable à Sciences Po, et aujourd'hui donc représentante spéciale pour la conférence climat ou COP21 à Paris. Alors j'aurais envie de vous demander, en ouverture de cette émission, comment est-ce que, au fond, de la recherche, des laboratoires comme à Sciences Po jusqu'à la COP21, depuis la LCR, vous avez fait un petit bout de chemin dans votre jeunesse, jusqu'à la diplomatie onusienne, est-ce qu'on perd pas ces idéaux? Comment est-ce qu'on reste une idéaliste? Comment est-ce qu'on continue à croire et à se battre pour des idées?
Évidemment, il faut d'abord avoir envie d'agir. Les idéaux, la fonction tribunicienne, si on peut dire, qu'on peut garder lorsqu'on est dans le milieu associatif. Une partie de ma vie a été aussi beaucoup le militantisme associatif et pas seulement politique. C'est une chose, et aussi on peut avoir, enfin c'est mon cas, envie d'agir et de changer les choses, de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est en cette
sens. C'est le cas de le dire, le cambouis.
Voilà, et là j'y suis complètement, et je me fais l'effet d'un garagiste. Et cette tension entre les idées, la direction, la vision du monde que l'on défend, qu'on ressent profondément, et la manière d'essayer de la traduire dans les faits. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait toujours cet aller-retour entre la recherche, le militantisme associatif et des incursions qui n'ont jamais été toujours longues, enfin longues au côté de Lionel Jospin, plus courtes ensuite, dans l'action.
Le risque, politique. C'est de devenir un techno finalement, une techno.
Je ne sais pas si on passe toute sa vie à être techno. Oui, quand on prend du recul intellectuel, quand on est toujours en liaison avec le mouvement associatif, quand on discute au jour le jour avec à la fois les événements les plus radicaux ou au contraire les plus réformistes, on est dans la vie. Quand on est dans la vie, on ne devient pas techno en tout cas.
Est-ce que ça existe, la diplomatie climatique ?
De fait, oui. Et elle a ceci d'étrange et de passionnant qu'elle ne concerne pas que les gouvernements. Alors pourquoi diplomatie ? Parce que c'est une question internationale. Et depuis 92, progressivement, c'est devenu une grande question internationale. En 92, lorsque j'étais à Rio, du côté des ONG, évidemment, on voyait poindre ce sujet, mais il était encore une affaire de spécialistes. Et puis, progressivement, c'est devenu une affaire d'État. Ça a certainement émergé à Copenhague. Le climat est devenu une affaire d'État à Copenhague. Et c'était tout à fait nouveau. Donc oui, diplomatie au sens que c'est l'affaire des États. Mais parce que ce sont les scientifiques et les mouvements associatifs qui ont mis le sujet du climat sur la scène internationale. À tous les moments, cette diplomatie n'a pas pu être seulement celle des gouvernements. Donc c'est cela, peut-être cette particularité qui fait d'ailleurs l'objet de la stratégie que j'ai proposée au gouvernement quand je suis arrivée, en disant on ne peut pas avoir une stratégie seulement vis-à-vis de l'accord international, des gouvernements qui vont négocier leur traité ou leur futur instrument juridique. Il faut emmener les acteurs de la société civile, il faut penser à la fois le niveau local et le niveau global, parce que c'est une diplomatie à 360 degrés. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que toute la maison Quai d'Orsay, le gouvernement général et tout le monde
s'est mis en marche. Bien, bon, on va essayer de rester sur ce dynamisme et pas trop user de langue de bois. Hein. Parfois, les diplomates, vous savez, ils usent beaucoup de langue de bois et avec, on pourrait peut-être presque reboiser toute l'Amazonie.
Si on ne concluait pas, s'il n'y avait aucune mesure qui était prise substantielle pour assurer cette transition et cette adaptation, mais alors, ce n'est pas des centaines de milliers de réfugiés dans les 20-30 prochaines années que nous aurions à traiter. C'est des millions. Ce qu'on appelle les naufragés du climat, les déplacés, ceux qui fuient des zones désertiques, des pays qui vont être inondés pour un certain nombre de pays insulaires, des villes qui ne pourront plus être bâties. Ça va être une suite de catastrophes. Je ne dis pas ça pour noircir encore le tableau, mais parce que nous sommes dans cette situation. Et il se trouve que c'est la France et que je suis dans cette responsabilité. Alors je ferai tout pour que nous puissions avoir un accord sur le climat au mois de décembre.
Le président de la République, François Hollande, c'était lors de la conférence de presse le 7 septembre dernier, où il évoquait notamment le climat et la COP21. Pour commencer l'actualité de cette semaine, comme chaque semaine, avec nos chroniqueurs et invités, on s'intéresse donc ce soir à l'actualité de la COP21, avec vous, Marjorie Paillon.
Absolument, Frédéric. Et en langage officiel onusien, ça se dit 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015.
C'est plus facile le COP21 finalement.
Absolument, c'est plus facile et surtout elle se tient à Paris. Vous l'avez dit, du 30 novembre au 11 décembre prochain, mission de la France, présidente et hôte de l'événement, aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays et ce, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés. Alors experts, climatologues, négociateurs et politiques affûtent leurs thermomètres et leurs arguments car il va falloir faire preuve de diplomatie, on l'a dit, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d'un consensus à J-71. C'est très précis, de l'ouverture de ces négociations sur le climat, les États sont priés de publier leurs contributions. Une trentaine se sont déjà exécutées et cette semaine, c'était notamment au tour de l'Union européenne de se mettre d'accord. Résultat, l'intention de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et les 28 voient même plus loin, réduction de ces émissions de 50% d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990, il faut comparer ce qui est comparable, jusqu'à atteindre la neutralité carbone à la fin du siècle. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le zéro émission serait proche en 2100 grâce à différents moyens de lutte anti-carbone, hein, comme les nouvelles technologies, le recours accru aux énergies renouvelables ou à des plantations d'arbres. Il faut dire que les pays de l'Union européenne sont responsables de 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, c'est moins que la Chine, hein, c'est sur hauteur de 25% du total mondial. Pékin lui a mis un coup d'accélérateur d'ailleurs à la réduction des émissions de CO2. En juin dernier, Pékin promettait d'atteindre le pic de ses émissions autour de 2030 et d'augmenter la part des énergies non fossiles. De l'autre côté de l'Atlantique, on va voir Barack Obama qui lui consacre la fin de son mandat à attirer l'attention de ses concitoyens sur les changements climatiques. Avant de jouer les aventuriers de l'extrême dans une émission sur NBC, il dévoilait un plan pour la décarbonisation de l'économie américaine. Et c'est très difficile à dire. Et pour la première fois de son histoire, le deuxième pollueur mondial, le mondial se met lui aussi au pas. On en viendrait presque à se demander quelle est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder la COP.
Le pape s'engage, Obama s'est engagé. Pieraski, vous voyez une sorte de momentum sur ce sujet?
Alors, l'accord qu'il y a eu à Bruxelles entre les 28 est quand même, je dirais presque une surprise, parce que on est en pleine division sur la manière d'accueillir les réfugiés. On a passé des nuits blanches pour régler la crise de la dette grecque il y a seulement quelques mois. Et là, tout d'un coup, il semblerait que ce soit plus facile de s'entendre sur le climat et sur une posture de négociation, donc de la part d'un bloc aussi important que l'Union européenne, que de régler les autres problèmes. Est-ce que c'est le cas, Laurence Dubiana?
Alors, oui, il y a un momentum. Et on le voit d'ailleurs, il y a un effet vertueux. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la présidence française sur cette COP de Paris, c'est justement d'utiliser le momentum pour que, au fond, on engage une prophétie autoréalisatrice. Si tout le monde pense que l'économie sobre en carbone, la lutte contre le changement climatique, c'est l'avenir, tout le monde va s'y mettre.
C'est performatif. Hein, il suffit de le dire, ça se fait.
Bah, comme là, je crois, quand président de la Banque fédérale ou de la Banque européenne, bon. Ça a un effet. Voilà, le discours a un effet. Mais ce qu'il y a de très frappant, c'est cela. Il y a à la fois, depuis maintenant, début 2014, une série d'annonces de bonnes nouvelles qui montrent que chacun se regarde et se prend à croire qu'on va le faire. D'abord parce que, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les technologies coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Que si tout le monde le fait, la force de la globalisation va aussi aider à cela. Et qu'au fond, les annonces d'Obama, puis les annonces chinoises des maires, une annonce formidable, il y a moins d'une semaine maintenant, maires chinois et américains ont fait des propositions en matière de réduction des émissions qui vont au-delà de ce que leurs pays respectifs ont fait. C'est-à-dire ils proposent d'aller plus loin que la contribution des États-Unis ou de la Chine. Et ce momentum, en fait, je crois, permet de dépasser les conflits d'intérêts habituels. C'est ce qui s'est passé à Bruxelles. C'était une bonne surprise. Ce n'était pas une totale surprise, mais c'était une très bonne surprise.
Marjorie Paillon.
Mais l'écologiste est aussi de l'économie. Comment concrètement on va financer ces réductions de gaz à effet de serre?
Alors, il y a un peu peut-être souvent une erreur de perspective. Parce que on ne voit pas que de quoi s'agit-il. D'une grande transition énergétique d'abord. Une grande transition énergétique, c'est d'abord de l'investissement. Cet investissement qu'on fait de toute façon, alors qu'on le mette dans du charbon, dans du pétrole, dans du gaz, ou au contraire dans des renouvelables, on a des plans d'investissement que de toute façon les pays s'apprêtent ou vont faire. Et donc il s'agit plutôt d'une inflexion d'une trajectoire d'investissement, d'une réorientation de cette trajectoire, et que, au fond, tout ce qui allait vers les activités qu'on appelle intensives en carbone, le charbon, le pétrole, le gaz, aille vers, au fond, des produits aussi intensifs en énergie, parce que l'économie d'énergie, c'est aussi une très grande partie de la solution. Eh bien, c'est la réorientation de ces investissements vers des investissements bas en carbone, renouvelable et efficacité énergétique qui fait le...
Donc c'est pas de la décroissance, non, ça reste de la croissance,
non,
mais avec d'autres...
Et heureusement, si on regarde ce qui vient de se passer dans beaucoup de pays européens, et y compris aux États-Unis, il y a eu un vrai découplage. Alors, qu'on peut discuter sur certains autres éléments, mais il y a un découplage quand même entre la consommation d'énergie, en tout cas, et la croissance économique. Et ça, c'est la bonne nouvelle auxquelles les Chinois ont commencé à croire pour de vrai.
On dit, Laurence Dubiana, que 50% des Français ne savent pas ce qu'est la COP21, toujours. C'est une question qui nous est posée sur Twitter. Comment est-ce que vous feriez pour leur montrer qu'au fond, ça, non seulement il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit, mais que ça les concerne?
Alors, je crois d'abord, heureusement, ce n'est pas seulement à moi de m'en occuper. Et Pierre-Henri Guignard, notamment, et les deux ministères qui sont à la manœuvre,
le Quai d'Orsay
et le ministère de l'écologie et du développement durable, sous la houlette de Ségolène Royal, vont faire beaucoup de campagnes dans les semaines qui viennent pour expliquer la COP21 à tout le monde. C'est vrai que c'est un objet un peu non identifié. Qu'est-ce que c'est cette grande négociation climatique? Copenhague a laissé des traces négatives. À quoi servent ces négociations?
COP21, ça ne veut pas dire Copenhague 21. Hein. Alors, rassurez-nous.
Je vois que vous aviez, en arrivant, le livre de Naomi Klein qui dit, par ailleurs, à quoi servent toutes ces négociations? Ça ne sert à rien, il faut être fou pour croire aux négociations climatiques.
Oui, elle pense que c'est un moyen de changer, au fond, le capitalisme dans son livre. Ça change tout, Naomi Klein.
Le climat est un extraordinaire levier de changement. Alors, on peut le voir comme une troisième révolution industrielle, on peut le voir comme la fin du système capitaliste, ça dépend.
Vous voulez dire qu'elle, elle est restée LCR, contrairement à d'autres?
Peut-être, non, je ne sais pas.
Pierre Aski.
On entendait tout à l'heure le président de la République qui parlait d'un flux de réfugiés climatiques, etc. Est-ce qu'il est indispensable de dramatiser les conséquences éventuelles d'un échec pour que les gens prennent conscience? Est-ce que le discours n'aurait pas intérêt à être plus positif? Parce que c'est la grande peur, c'est ce qu'agitent les écologistes depuis 20 ans sans grand succès.
Je pense que la grande peur a une fonction au sens où elle peut être une prise de conscience. Et je reviendrai sans doute sur les propos du président de la République. Il n'y avait pas seulement la grande peur, il y avait aussi tout de même cet accord à Paris, c'est pas gagné. Et il y a encore beaucoup de chemin et il a tout à fait raison de prévenir que ça n'est pas facile. Même si, encore une fois, le momentum est extraordinaire.
Mais c'est pas la COP de la dernière chance.
Et au contraire, c'est vraiment tout ce qu'il faut qu'on explique, parce que c'est vrai, c'est le début de quelque chose, en tout cas un tournant dans un mouvement qui est en fait déjà engagé. Mais vous avez tout à fait raison, le discours de la peur doit s'accompagner des sorties, de comment on fait, des solutions, de l'action. Sinon, on a peur et on est paralysé. C'est toute la discussion que beaucoup de philosophes ont eue depuis 20 ans. Est-ce que le catastrophisme éclairé, la peur peut engendrer l'action? Ça ne l'engendre pas seul. Si, et on le voit d'ailleurs, puisque c'est une... Au fond, tout ça est une théorie du changement. Si on peut faire changer les comportements, les politiques, pour les faire changer, il faut que les solutions soient compréhensibles et semblent à portée de main. Il faut que l'innovation devienne quelque chose de désirable, à la fois pour les citoyens, mais aussi pour les politiques. Il y a aussi un fantastique besoin de rassurer. Et donc, il faut jouer sans doute sur les deux.
Avec nous ce soir également Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Romain Nadal, peut-être quand on regarde l'organisation, il y a à la fois une ambassadrice climat présente ici, Laurence Dubiana, il y a le rôle du ministre des Affaires étrangères, le rôle du ministre de l'Environnement, bien sûr aussi de nombreux acteurs internationaux. Comment va se faire l'accord, si accord il y a? Est-ce qu'on aura un accord et comment ça va s'organiser et se négocier?
Il y a en quelque sorte une équipe de France du climat. Avec le président de la République.
On peut dire que c'est la Coupe du Monde de l'environnement, finalement.
C'est un peu, en tout cas, c'est un peu les Jeux Olympiques de la diplomatie, puisqu'on accueille à Paris entre 30 et 40 000 personnes, et Pierre-Henri Guignard...
N'en comptez tous les offres dans les rues qui
vont... On est le coordonnateur de l'organisation, c'est très important, il faut bien les accueillir, et on accueille le monde entier, à la fois des délégués gouvernementaux, mais aussi des représentants d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, près de 3 000 journalistes. Donc c'est vraiment une organisation extrêmement fine. Il faut que Paris offre sa meilleure image. Ça va se passer en Seine-Saint-Denis, au Bourget, c'est pas aussi...
Mais aussi partout dans Paris, hein. Les lieux vont être mobilisés presque partout.
Oui, partout, tout Paris va se mobiliser, mais je trouve que avoir choisi la Seine-Saint-Denis comme lieu d'accueil de cette conférence, c'est un symbole, et c'est un département qui va offrir à tous les délégués et à tous les participants son plus beau visage. Donc, une équipe de France, et puis ensuite 196 parties à cette négociation. C'est une négociation universelle, bien caractéristique de ce que sont les relations internationales aujourd'hui, c'est-à-dire avec énormément d'acteurs qui contribuent au succès. Et c'est le rôle de Laurence et le rôle des organisations non gouvernementales, des entreprises, des collectivités locales, on le mentionnait. Donc tous ces acteurs contribuent à cette dynamique et nous espérons que Paris sera un moment de tournant pour les négociations internationales, pour les relations internationales, mais il y aura ensuite une présidence marocaine qui succédera à la France.
La COP22.
C'est un beau symbole et qui va poursuivre et amplifier la dynamique que nous espérons créer à Paris.
Laurence Tubiana est mon invité ce soir jusqu'à 20h. Vous pouvez lui poser vos questions sur les réseaux sociaux ainsi qu'à Pierre-Henri Guignard, le secrétaire général chargé de l'organisation de cette COP21 et Romain Nadal, donc porte-parole du ministère des Affaires étrangères au hashtag SoftPower sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on parle de l'obsolescence dans le numérique. N'y voyez d'ailleurs aucun mauvais esprit à l'égard de Prince, un extrait du nouvel album du presque sexagénaire chanteur de Minneapolis, Prince, A Thousand Kisses and Hugs.
As hard as you, hot desert sun, you can feel the heat. Every drop of sweat on your brow is well earned, so you best believe. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. When you give him your all, still it's only second best. You can come and lay your head upon your baby's chest. Every one of your worries, all your worries, all your misery, all your misery, you can put them in a little boat and ship them off to sea. 'Cause I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby. I got a thousand hugs and kisses for you when you come back home, baby.
C'est une sorte de retour inattendu et très décalé que vient de faire Prince en sortant son nouvel album en exclusivité sur la plateforme de streaming Tidal. Tidal a été imaginé par les Suédois et Norvégiens de Aspiro, une société européenne donc, mais récemment racheté par des artistes, notamment américains, en l'occurrence Jay-Z. C'est défendent-ils, hein, ces artistes, la première plateforme de streaming gérée directement par des artistes, ce qui est plus favorable, pense-t-il, aux créateurs. Leur offre des rémunérations sera plus importante au niveau des droits d'auteur et plus élevée donc, et davantage de protection du copyright. Tidal a déjà 30 millions de titres disponibles, 75 000 vidéos, le tout accessible en qualité CD de haut niveau. Aucune offre gratuite n'est disponible. Il faut s'abonner. Le prix à payer pour la création, affirme Tidal, un modèle intéressant en concurrence directe avec Spotify, Deezer, Qobuz ou les Américains Pandora et Apple Music.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Ce soir, nous évoquons l'obsolescence programmée avec vous, Marjorie Paillon. On définit le terme d'abord, on l'explique ensuite avec Pierre Aski également. On en débat enfin avec notre invitée ce soir, Laurence Tubiana, ambassadrice de France chargée des négociations climatiques pour la COP21. Alors, l'obsolescence programmée, de quoi s'agit-il, Marjorie?
C'est surtout un délit passible de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et on va justement en parler dans cet alphabet numérique. L'obsolescence programmée, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est cette fatalité qui frappe logiciel, téléphone, tablette, imprimante ou machine de tout poil à tomber en panne ou en désuétude quand vous y attendez le moins. Vous ne vous y attendez pas, mais les constructeurs, par contre, eux, si. Puisque cette ruse consiste pour les fabricants...
Vous voulez dire qu'ils le prévoient quasiment.
Et c'est ce qui pourrait bien arriver. En En effet, cette ruse consiste pour les fabricants à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour vous obliger à le remplacer. En tout cas, c'est ce que dit le législateur. Et cette théorie, elle ne date pas d'Apple, mais de 1932. Et on la doit à Bernard London, agent immobilier new-yorkais de son état. Pour trouver des solutions à la crise économique qui frappe alors les États-Unis, il propose sur 32 pages un plan pour mettre fin au chômage de masse. Je cite le nom de ce plan, l'obsolescence. Planifier, c'est ce qu'on dit à l'époque, pour en finir avec la Grande Dépression. Ni plus ni moins que la mise en œuvre systématique et planifiée de la fin de vie des objets du quotidien pour permettre aux usines de tourner à plein en renouvelant leur stock. Une intention louable donc dans les années 30 pour les uns, un plan machiavéliquement consumériste pour les autres et qui est peut-être donc en train d'être sanctionné, en tout cas elle l'est sanctionnée depuis le mois de juillet et c'est la loi sur la transition énergétique qui le dit. Encore faut-il s'accorder sur les techniques utilisées par les contrevenants, obsolescence par incompatibilité, par notification ou encore par péremption, et définir clairement la nature de cette obsolescence. Elle peut être indirecte, esthétique ou écologique. Un dernier aspect vivement défendu par Ségolène Royal est souvent présenté comme une dérive de la société de consommation, un pas vers une consommation éthique qui offrirait des économies pour les consommateurs et une diminution de la pollution pour les États. Mais ce rêve d'une consommation plus verte pourrait se heurter à la réalité matérielle, réussir à prouver l'intentionnalité de la fin de vie des appareils.
En tout cas, l'obsolescence programmée, c'est une infraction désormais punie de 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Pierre Aski, on a tous connu ça, une batterie qu'on veut changer, qui est introuvable sur le marché, des piles qui ne sont plus commercialisées, une imprimante obsolète. Au passage, celle de France Culture nous a lâché cet après-midi. On peut en témoigner, ça arrive. Dérive de société de consommation ?
Oui, parce que si on revient au plan machiavélique de Bernard London en 1932, on a quelqu'un qui avait une bonne intention qui était de réduire le chômage et qui dit, voilà, les gens gardent leurs objets plus longtemps que nécessaire. Et si on veut que le chômage se réduise, il faut que le gouvernement, c'était son idée, que le gouvernement donne une date de durée de vie des objets et que ces objets soient détruits à l'issue de ce délai s'il y a encore du chômage dans le pays, ce qui permettrait de faire tourner les usines. C'est une idée qui est extraordinaire, surtout dans un pays libéral comme les États-Unis, de penser que c'est le gouvernement qui va définir la durée de vie d'une voiture ou d'une paire de chaussures, puisque ce sont les exemples qu'il donne.
Vous voulez dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les tablettes ni les smartphones?
Non, effectivement, il n'avait pas prévu ça, cet homme. Et l'idée a évolué et elle a été reprise, non pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des entreprises. Mais c'est la même. C'est l'idée qu'il faut faire tourner les usines, il faut vendre des nouveaux produits, et donc on va en limiter la durée de vie, quelle que soit la capacité de ces objets à durer plus longtemps. Le problème, c'est que depuis, et on mélange peut-être deux choses là, qui sont d'une part les actions délibérées pour que une machine se casse, et puis les effets du marketing, des effets de mode que l'on crée, et qui fait que vous avez envie de changer votre smartphone quand le battage médiatique de telle ou telle marque fait que le vôtre a l'air ringard du jour au lendemain, et que vous allez acheter un nouveau alors que le vôtre pourrait marcher encore quelques années. Donc là, il y a deux notions qui vont être très difficile à trancher dans les tribunaux si on veut faire respecter la loi qui a été votée en France.
Avec nous, Laurence Tubianin, ambassadrice de France chargée des négociations climatiques pour la COP21. Est-ce que c'est ce type de sujet qui peuvent faire l'objet aussi de discussions si on veut concevoir une lutte contre les changements climatiques large ?
Il y a tout effectivement une réflexion, alors qui est assez difficile à traduire en droit international. Et là, c'est plutôt au niveau des actions locales, aussi d'ailleurs
de la société civile,
des comportements des entreprises, de la réflexion aussi des sociétés sur les styles et les modèles de consommation. Et c'est intéressant parce que c'est l'Inde qui veut porter ce sujet en particulier pour la conférence de Paris, dire vraiment au fond, est-ce que d'abord on n'a pas une consommation excessive, est-ce qu'on peut modérer, donc la notion de sobriété qu'on avait d'ailleurs discuté de façon intéressante dans le débat sur la transition énergétique en France, en disant est-ce qu'au fond on ne doit pas chercher une sobriété dans notre consommation.
C'est Pierre Rabhi qui parle de la sobriété heureuse.
Voilà, et donc cette notion-là commence à exister, le recyclage bien sûr, qui évidemment va à l'encontre d'une obsolescence programmée, et aussi cette notion d'économie du partage, ou la dématérialisation de la consommation ou des objets, ou des usages aussi, la valorisation des usages plutôt plutôt que des objets eux-mêmes. Je suis très frappée de voir l'évolution des, évidemment différente selon les pays, du rapport à la voiture. Et tout ça montre que effectivement il y a cette loi qui va être probablement évidemment difficile à appliquer parce que, comme le disait Pierre Aski, c'est pas facile de démontrer la fraude ou la faute. Mais certainement, cela accompagne un mouvement de société qui est de se dire on consomme trop d'objets, on les change trop souvent et en plus on pourrait les partager, les recycler.
Marjorie Paillon.
Un mouvement de société qui aussi préfigure des mouvements différents dans l'innovation. Il y a par exemple un théoricien qui est également consultant qui s'appelle Navi Rajo qui est le dépositaire d'une innovation très particulière qui s'appelle l'innovation jougade. Jougade en hindi, ça veut dire l'innovation frugale. Comment est-ce qu'on fait mieux avec moins? Et c'est exactement ce qu'il développe comme théorie auprès d'entreprises, auprès de grands groupes, auprès également d'États. Comment est-ce qu'on fait mieux avec moins, justement?
Laurence Tubiana.
Oui, je l'ai invité il y a maintenant trois ans à Paris dans un colloque justement sur ces nouvelles formes de consommation et d'économie. Et cette idée de frugalité, c'est-à-dire de simplicité, c'est un mouvement qu'on voit dans la société. Et je trouve très intéressant que dans le débat sur le climat, où à la fois on discute beaucoup innovation technologique, dernier cri, ce qu'on doit faire comme progrès pour arriver par exemple à utiliser les énergies renouvelables, on va avoir besoin de beaucoup d'innovation, de déblocage de certains sujets et qu'en même temps on peut aussi aller vers des styles d'innovation beaucoup plus traditionnels.
Circuits courts, la slow food, etc.
Et on va avoir une journée de l'innovation le 8 décembre pendant la COP de Paris où en même temps on aura ces très grandes avancées en même temps que ce recours à l'innovation frugale.
Pierre Aski.
Alors au moment du vote de cet amendement l'année dernière en France, il y a eu des critiques qui ont été adressées à cette loi en disant le moyen le plus simple finalement de lutter contre l'obsolescence programmée, c'est d'accroître le délai des garanties. Et que si on portait la garantie à 5 ans, 7 ans, voire 10 ans pour certains objets, on ferait en sorte que les constructeurs leur donnent cette durée de vie parce que ça leur coûterait cher d'avoir à reprendre ou à réparer les objets. Or, il semble que le législateur ait renoncé à cette dimension. Aujourd'hui, la garantie est de 2 ans et beaucoup de gens pensent que c'est l'action des lobbies qui empêche qu'on aille aussi loin. Alors, est-ce que les lobbies, c'est pas l'éternel grand méchant loup de toute cette action pour le développement durable?
Bien sûr, il y a des intérêts. Et ça n'est pas nouveau. Il y a des intérêts qui veulent au contraire qu'on n'aille pas vers ce changement parce que ça, ils y perdent tout simplement. Et alors on peut faire une grande liste de ceux qui sont les perdants d'un bon accord sur le climat, d'un changement qui s'accélère. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, je trouve quand même, et c'est en ça que je trouve qu'il faut toujours se dire, il y a les intérêts et puis aussi il y a la perception de ces intérêts, leur évolution dans le temps. Et ça, au fond, des entreprises, des lobbies de différentes natures qui vont s'opposer à un changement, on les reconnaît, on les voit, ils agissent d'ailleurs, ils publient, ils écrivent, ils font pression. Et en même temps, y compris chez eux, commence à se percevoir l'idée, est-ce que c'est vraiment le modèle pour nous dans l'avenir? Parce qu'un intérêt, ça n'est pas fixe, ça n'est pas une donnée. Ça évolue dans le contexte à la fois géographique et temporel, et que tout le travail pour évidemment bouger tous ces mastodontes de l'économie mondiale, c'est de commencer à leur faire percevoir que peut-être leur intérêt il est ailleurs et demain. Alors, il ne faut pas être naïf. C'est pour cela d'ailleurs que c'est très important que la société civile continue à son rôle de pression, de dénonciation, de vigilance, et qu'en même temps, il faut montrer qu'on peut aussi faire de la bonne économie différemment.
L'obsolescence programmée, pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux mot-clé Soft Power. Vous pouvez également retrouver l'alphabet numérique en podcast sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com.
Nous sommes ce soir avec Laurence Dubiana, ambassadrice de la France aux négociations climatiques pour la COP21, Pierre-Henri Guignard, secrétaire général chargé de l'organisation de la COP21, et Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. On retrouve ce débat que nous poursuivons en s'intéressant essentiellement aux questions d'organisation, de soft power, d'influence, comment ça va s'organiser, comment ça va marcher. Juste après, les Canadiens sur France Culture, du rock canadien, il s'appelle Metric. Dans les années 90, on appelait ça du rock, mais c'est une sorte de new wave en réalité, influencé d'ailleurs par Depeche Mode et même un petit son un peu à la The Cure. Metric vient de rendre public ce vendredi un 6e album intitulé Pagans in Vegas, dont on écoutait à l'instant un extrait Fortunes. Vous pouvez d'ailleurs désormais retrouver toute la playlist de Soft Power sur Deezer, la page dédiée Soft Power sur Deezer.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Laurence Dubiana, ambassadrice de France aux négociations climatiques pour la COP21. Pierre-Henri Guignard, secrétaire général chargé de l'organisation de cette COP. Et Romain Nadal, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sont mes invités ce soir en direct dans Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h. Alors parlons des négociations, comment ça fonctionne, à quoi ça sert un ambassadeur, en l'occurrence une ambassadrice chargée du climat. Il y a une phrase célèbre de Jean Monnet dans ses mémoires où il dit « Lorsqu'on est en Chine, il faut savoir attendre. Lorsqu'on est aux États-Unis, il faut savoir revenir. » Ça veut dire que dans chaque pays, en Russie, en Inde, en Chine en l'occurrence ou ailleurs, on va devoir trouver des manières de négocier, de faire de la diplomatie qui n'est pas uniforme, Laurence Dubiana.
Évidemment. En particulier sur ce... Enfin, c'est vrai pour tous les sujets, mais celui-là, il a la particularité de vouloir coordonner une action internationale sur la base de politiques domestiques, de politiques nationales. Parce que l'énergie, la planification urbaine, les transports publics, l'agriculture écologique, c'est pas un problème international. C'est d'abord un problème local, c'est des décisions locales. Et des fois, parfois très très locales.
Donc faut chaque fois, je sais pas, en Russie, il faut aller chez eux, être longue visite chez... En Inde, il faut... Quelles sont vos techniques ?
D'abord, il faut bien connaître. La connaissance, ça, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu de solides racines de professeur, et je m'en sers souvent. C'est qu'il faut vraiment comprendre le contexte et l'économie politique du sujet dans chaque pays. Et quand on comprend que, par exemple, pour la Chine, ce qui est maintenant trivial et qui est évidemment venu dans la presse, le fait que la pollution urbaine soit liée maintenant à la lutte contre le changement climatique.
On dit par exemple qu'on inhale à Pékin l'équivalent de 40 cigarettes par jour sont fumées juste par les tuyaux d'échappement, les
pots d'échappement. Exactement, pots d'échappement et électricité produite avec le charbon. Donc ce contexte particulier aussi, le moment, le fait que la croissance chinoise se ralentit, qu'on cherche un nouveau souffle, ça c'est le contexte de la discussion chinoise où au fond l'idée n'est plus le taux de croissance à tout prix, mais permet une croissance de qualité bien meilleure, une rééquilibrage de l'économie. Ça, c'est ce qu'on dit et avec quoi on travaille. Il faut que donc la Chine trouve dans cet accord les moyens d'accompagner le développement qu'elle est en train de choisir. Pour l'Inde, c'est un contexte complètement différent. C'est le problème de l'accès à l'électricité pour des millions de personnes qui ne l'ont pas.
Dans plus de 700 000 villages.
Voilà, et qui pour l'instant, repose sur un usage encore très important du charbon. Et on ne peut pas faire une proposition à l'Inde qui ne tienne pas compte à la fois de sa décentralisation extrême politique et en même temps du fait qu'elle a des invariants qui sont pour l'instant, qui sont sa dépendance au charbon qu'elle va...
Ça veut dire que développement et écologie sont souvent perçus comme étant contradictoires.
Oui, d'ailleurs, selon les pays, il y a des chemins intellectuels et politiques qui sont en train de se faire. Quand on regarde l'Amérique latine, toute l'Amérique latine a compris, et vraiment c'est assez général maintenant, que le développement durable était un vrai futur. Et au contraire, pour d'autres pays, c'est encore une opposition. Et c'est ça qu'il faut changer dans la discussion avec chaque pays.
Alors justement, nous sommes à Quito, en Équateur. Paula Carrera est ministre déléguée de l'Environnement dans le gouvernement de Rafael Correa, en Équateur donc. Je l'ai interrogée cet été sur ce qu'elle attendait de la COP 21.
En termes de cambio climatique, l'Équateur a beaucoup d'espectatives pour la COP en Paris.
En termes de changement climatique, l'Équateur place beaucoup d'attentes dans la COP 21. Une des plus importantes, c'est de prolonger le délai d'application du protocole de Kyoto. Tous les pays en voie de développement dans l'Amérique latine attendent depuis des années que les pays les plus développés ratifient le protocole. Ce sont eux qui causent le plus de problèmes, ce sont eux qui font le plus de dégâts, surtout pour les émissions de gaz et la gestion des déchets.
Y por lo tanto llevamos a la COP de París una idea muy clara.
Pour cette raison, nous venons à la COP 21 avec une idée très claire. Ces pays doivent assumer leur responsabilité vis-à-vis de la planète.
La responsabilidad sobre estas emisiones.
Paula Carrera, ministre déléguée de l'Environnement dans le gouvernement Correa en Équateur. Romain Nadal, vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay. On évoquait ces différentes manières de négocier. C'est au fond le métier de diplomate. Il faut justement s'adapter à chacun pour arriver à avancer.
Bien sûr, et c'est la clé de la réussite d'une diplomatie efficace. Comprendre l'autre, l'écouter et être ambitieux pour la planète. L'une des caractéristiques de la politique étrangère de la France, c'est non seulement de défendre des intérêts nationaux, mais aussi de porter des intérêts qui dépassent les seuls intérêts nationaux de la France. Et c'est le cas avec cette conférence de Paris. Lorsque le président de la République et Laurent Fabius ont décidé que Paris accueillerait cette conférence et que la France assumerait la présidence de la COP 21, il y avait beaucoup de scepticisme, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Notamment Copenhague, mais pas seulement. Et nous avons souhaité porter cette cause du dérèglement climatique sur la scène internationale parce que, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Donc c'est vraiment une question vitale. Mais je pourrais citer d'autres sujets, par exemple l'encadrement du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un sujet que nous portons depuis 2 ans. Le président de la République, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, a porté cette proposition de la France, une limitation par les membres permanents du Conseil de sécurité, de l'exercice de leur droit de veto en cas de crime de masse. C'est un sujet vraiment très important. On voit par exemple avec la crise syrienne qu'il y a eu un blocage du Conseil de sécurité depuis 4 ans qui a sans doute malheureusement permis à cette crise de s'envenimer, de s'aggraver. Donc nous portons cette proposition. Ça n'est pas dans le cadre strict de la défense d'un intérêt national, mais parce que nous pensons que c'est le sens de l'intérêt de la communauté internationale et du maintien de la paix. Voilà 2 exemples. Le climat et l'encadrement du droit de veto, de priorité de notre diplomatie qui dépasse les seuls intérêts nationaux de la France.
Une question, Marjorie Paillon.
Alors, admettons que nous sommes le 11 décembre, on aboutit enfin à un accord par consensus. Allez, on va garder quand même ce point-là. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que justement les États qui se sont engagés, qui ont signé cette future résolution, vont vraiment la tenir? Admettons par exemple Barack Obama, lui est en fin de mandat, c'est facile pour lui de s'engager. Il n'a pas forcément à aller revoir son congrès pour pouvoir lui demander des comptes. Mais si on aboutit à un président Trump en 2016, comment est-ce qu'on s'assure que le président Trump, lui, va continuer à tenir les engagements du président Obama?
Alors, il y a plusieurs choses. On peut faire déjà pas mal de choses avec le droit international, parce que lorsque les pays prennent des engagements, vous savez, c'est un peu comme dans le droit, dans la mécanique européenne. En fait, c'est pas l'accord international, il va se traduire, ou chacun va le traduire dans son droit national. Donc c'est une première chose, et on va voir que ces contributions au nombre de 62 aujourd'hui qui sont proposées, qui vont aller de l'avant, elles vont être traduites dans la politique nationale. Il y a déjà donc une première résistance, si on peut dire, au changement, qui est de dire que les pays prennent des engagements, ils vont prendre des mesures chez eux, qui vont être en fait la meilleure manière de l'appliquer. Changement politique. Bon, évidemment, jamais personne, aucun traité international n'est à l'abri de ce type de changement. Alors, au fond, on l'a vu pour l'Australie avec, avec le climat, mais au fond, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sujet du changement climatique, la vision des solutions qu'on y apporte, d'une manière ou d'une autre, elle transcende progressivement les oppositions politiques. J'en veux pour preuve, lorsque M. Abbott a perdu donc son poste de Premier ministre et qu'il est maintenant remplacé, une des premières déclarations du nouveau Premier ministre a été de dire, au fond, on va réviser notre position sur la question du changement climatique. Pourquoi ? C'est pas pour des raisons électorales. C'est parce que ce sujet devient, on l'a dit, un sujet vraiment global, un sujet qui est vraiment la modernisation de l'économie, une vision aussi du risque, car chacun le perçoit, et que même si un président républicain succéderait à Barack Obama, il y a beaucoup de collectivités locales, beaucoup d'entreprises qui vont continuer à dire, la société américaine, qui va dire, le problème ne va pas disparaître parce qu'un président républicain, aussi le climat, serait élu.
Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est la société civile qui assure le service après-vente de la COP21 ?
C'est très important. Pourquoi est-ce qu'on a proposé une stratégie en quatre volets, c'est-à-dire un accord international, évidemment un effort local, national, avec ce qu'on appelle les contributions, un grand effort sur les finances, et pas seulement pour trouver de l'argent, mais pour réorienter le système financier international, et d'avoir un quatrième pilier qui est celle des acteurs non gouvernementaux, c'est pour les ériger non seulement en gardiens, mais aussi en acteurs de la mise en œuvre. Et c'est ça qui, me semble-t-il, fait la solidité du processus, ainsi que le fait que tout le monde pense que c'est ça l'avenir. C'est ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice, fondée sur le fait que les anticipations de chacun vont converger. Et ça, c'est mieux qu'une forme de justice internationale.
Vous voyez que vous avez gardé votre idéalisme, d'une certaine manière.
Absolument.
Avec nous ce soir, Pierre-Henri Guignard, secrétaire général chargé de l'organisation de la COP21. Avec vous, parlons justement un petit peu de cette organisation. Il y a d'abord une grande différence entre ce qu'on peut appeler une COP21 officielle, et ensuite, on va y revenir, la société civile. Les officiels, c'est ce qu'on appelle la zone bleue, ça va être où ? Comment c'est organisé ?
Je pense qu'il ne faut pas faire la distinction justement entre les uns et les autres.
Parce oui, que ça pour le coup, c'est la langue de bois. Parce que non. Ils sont au Bourget avec des milliers de CRS, de l'autre côté, ils n'auront pas le même badge.
Pas du tout. Non, mais alors, d'abord, votre question prouve que vous. Enfin, pas la question, mais votre suivi prouve que vous ne connaissez pas justement l'organisation de la COP. C'est que dans la zone bleue, donc qui est la zone onusienne, vous avez à la fois les représentants des États, donc qui négocient, qui sont à la table de négociation, représentant les États souverains, et vous avez les observateurs, qui sont les représentants des 9 piliers de la société civile, qui participent de fait à l'intérieur.
Oui, qui écoutent.
Donc c'est la Fondation Nicolas Hulot, Good Planet, VVF, etc.
Ce sont des milliers. Il y aura plus.
Les ONG officielles, disons.
Non, pas du tout. Ce sont les ONG qui sont reconnues, qui ont demandé à être accréditées, qui ont obtenu cette accréditation.
Il y a beaucoup qui ont demandé, qui ne l'ont pas été. Donc
vous avez des milliards d'habitants sur la planète, ils ne seront pas tous.
Il y a 130 organisations de la coalition Climat 21, ils n'y seront pas.
Ils seront tous représentés.
Les gens d'Alternatiba n'y seront pas. Les gens de Place to Be n'y seront pas. Les gens qui sont à la Gaîté Lyrique, au Petit Palais, à la Tour Eiffel, à la C3, à POC 21, etc., n'y seront pas. Donc il y a quand même deux mondes.
Non, pas du tout. C'est une fausse interprétation.
Je leur ai parlé à peu près tout cet après-midi, ils défendent l'idée qu'ils ne sont pas et qu'ils n'iront pas parce que c'est un autre espace. Mais peu importe, on peut peut-être pas mettre tout le monde, ne polémiquons pas sur
tout
ça.
Monde.
Donc il y a une zone bleue, là ça va être les gouvernements et un certain nombre d'ONG.
Non, c'est les gouvernements plus les 9 piliers de la société civile.
Donc 9 ONG.
Pas 9 ONG. Les 9 piliers de la société civile sont les entreprises, les syndicats, les ONG, les gouvernements locaux et collectivités territoriales, les populations autochtones, les représentants des organisations de femmes, de jeunes, les
Alors,
chercheurs.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle une zone jaune. Quelle est la différence entre la zone bleue et la zone jaune?
Alors, elle n'est pas jaune, elle s'appelle les espaces.
Espace
pour
la génération climat. Voilà. Mais il se trouve qu'elle est jaune.
Un espace, non, elle n'est pas jaune. C'est le logo qui est jaune et vert. Mais c'est un espace qui est tout à fait inhabituel dans une COP, qui est
dédié à la société
à quelques,
civile.
Quelques pas du cœur de la négociation, alors que d'habitude, c'est à plusieurs kilomètres. Et à cet endroit, on retrouvera à la fois les délégués accrédités, qui sont donc des représentants des États et des représentants de la société civile, et des non-accrédités. Vous, si vous n'êtes pas accrédité...
Donc il y a des gens qui ne sont pas accrédités.
Et
nous
voilà,
y venons.
Il y a des gens qui ne sont pas accrédités.
Donc qui sont tous ces gens qui
sont en place?
Tous, Laurence Toubiana, Romain Nadal, il y a 130 organisations au minimum dans la coalition Climat 21. On parle de milliers, dizaines de milliers de personnes. Des organisations sont très nombreuses. Toutes ces organisations vont d'une manière ou d'une autre faire des contre-forums, un contre-sommet, vont faire une média center alternatif, etc., etc. Comment est-ce que vous envisagez de dialoguer avec eux puisqu'ils ne sont pas accrédités? Mais encore une fois, c'est normal, ils sont très nombreux. Parfois, ils sont même...
Il y a des membres de la coalition qui sont évidemment accrédités, comme le réseau Action Climat est accrédité depuis longtemps. Ça, c'est...
Mais ce off, vous allez essayer de vous en nourrir?
Absolument. D'ailleurs, on a commencé un dialogue assez intensif. Avant chacune des grands moments de la négociation, nous ouvrons une discussion avec ces ONG, donc bien sûr celles qui sont de cette coalition, la coalition 21. On a donc un débat avant ces phases de négociation, y compris les réunions informelles que la France organise. On débriefe après. Alors on débriefe pas seulement à Paris, on débriefe avec un réseau international. Et donc on a un vrai échange avec des ONG qui sont partout autour de la planète. Et il y a des choses intéressantes dans les discussions qui ont précédé ces derniers mois sur la manière dont ils voient comment qualifier un succès, en quoi la COP 21 peut être une manière pour eux de lancer, d'accélérer un mouvement justement sur les alternatives. Le Tour de France d'Alternativa est extrêmement intéressant. Enfin, je retweet à chaque fois qu'il y a un projet nouveau qui arrive.
Donc vous essayez de vous nourrir au fond de à la fois la marche pour le climat qui aura lieu le 29 novembre, la coalition climat, on l'a dit, le climat forum, enfin on peut citer tout ce qui va se passer à Montreuil, tout ce qui va se passer dans une auberge de jeunesse près de la gare du Nord par exemple. C'est-à-dire que Paris partout aura des mini COP 21 et vous allez essayer de tisser l'ensemble de cette...
Dans la mesure des moyens bien sûr, mais au fond... Ce qu'il y a d'important, c'est que le mouvement existe, que chacun a sa place avec sa manière de voir, avec sa propre dynamique politique, associative, génère ce changement. Vous savez, le changement, il ne va pas se décréter à Paris, ni au Bourget, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça que les changements sociaux interviennent. Mais en revanche, c'est un mouvement d'accélération. Et si on peut témoigner de ça, faire la connexion pour montrer que ça bouge partout dans ce sens, et qu'il y a une direction commune, en tout cas pour les grandes lignes, c'est bien.
Mais est-ce que les leçons ont été tirées des grands rassemblements des années 90, les G7, G8, les sommets de l'OMC, etc. Où il y avait effectivement le on et le off qui tournaient mal parce qu'il y avait un dialogue de sourds, il y avait très peu de passerelles entre les deux. Est-ce que sur une question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le rôle de la société civile est fondamental pour faire pression sur les États, pour faire respecter les engagements et pour mobiliser toutes les énergies. Est-ce que là, ça sera autre chose que simplement un décorum formel entre le on et le off?
Écoutez, je crois que dans le gouvernement français, et en tout cas personnellement, en partie parce que je me souviens très bien à Seattle, j'y étais. Alors j'étais à ce moment-là...
De l'autre côté
dans le gouvernement Jospin, mais je faisais la traversée avec beaucoup pour discuter avec les autres, puisque j'avais quitté il y a très peu de mois le mouvement associatif pour venir travailler avec lui. Donc ce lien, je crois, on le perçoit d'ailleurs dans la manière dont la présidence française conduit les discussions, reçoit les ONG à l'Élysée. Il y a eu un dialogue entre le président de la République et les ONG réguliers. Laurent Fabius reçoit les ONG de façon régulière, c'est vrai aussi pour Ségolène Royal. Donc moi je crois qu'il faut arriver à, non pas, alors c'est, on ne peut pas penser que la COP 21 avec ses 195 pays va être le procès du capitalisme et sa fin, mais pourquoi pas ouvrir la discussion sur comment faire autrement. Et il y a beaucoup d'idées sur le commerce, par exemple, sur l'évolution du commerce international, les régulations financières, qui font partie de la COP21 et qui viennent d'une manière ou d'une autre du mouvement associatif et parfois du mouvement très radical. Et ça se nourrit, ça commence à percoler. Enfin, moi, je pense profondément qu'on peut faire les liens entre ces mouvements d'idées, en tout cas.
Ça va être de la fusion. Romain Nadal, François Hollande a appelé la société civile à se mobiliser pendant la COP21. C'est un peu aussi la philosophie que vous, en tant que porte-parole du Quai d'Orsay, vous avez envie de favoriser ?
Oui, avec Laurence et avec Pierre-Henri, il y a une interaction permanente avec la société. Et depuis des mois, c'est pas aujourd'hui, c'est pas lors de la conférence de Paris, ça s'est fait en amont. Et c'est un processus permanent et continu.
Vous voulez dire par CRS interposé ou...
Bon, c'est, au contraire, ça se passe dans un dialogue très fécond.
On n'a pas vu.
Ouais, c'est un dialogue très fécond avec la société civile. Elle nous apporte beaucoup.
On ne craint pas ça aussi ? Enfin, il y a tout ce débat sur les zadistes, les désobéissants, les black blocs très actifs à Notre-Dame-des-Landes qui risquent de venir casser un peu Paris.
Nous espérons que le dialogue avec la société civile sera non-violent. L'objectif de cette conférence, c'est un dialogue constructif à l'échelle universelle.
Et puis c'est aux organisateurs de la manif du 29 d'imprimer ce qu'ils veulent à leur mouvement. C'est leur manif, c'est leur démonstration et c'est à eux de savoir, et je ne crois pas qu'ils veuillent en faire un mouvement violent. Ils veulent au contraire montrer
qu'on peut... Ils risquent d'être débordés par des extrémistes.
Bon, ça, c'est des problèmes de sécurité
classique. Pierre-Henri Guignard, justement, sur ces questions de sécurité, comment est-ce que vous gérez ces espaces bleus, jaunes, avec des nombreuses cartes et des nombreux badges?
Écoutez, elles sont évidemment au cœur de nos préoccupations. Hein. Notre pays a connu des épisodes douloureux depuis le début de l'année et bien évidemment nous tenons à la sécurité de tous. Il y a ces incidents possibles que vous mentionnez et tout sera fait pour éviter justement qu'ils soient graves. Mais je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez. Je vous trouve très injuste avec les Nations Unies sur cette question du climat. S'il y a un forum dans le monde onusien, qui est ouvert à la société civile, qui dialogue avec elle, qui lui donne une place physique, c'est bien sur le climat. Et c'est, pour moi, c'est vraiment la préfiguration.
Ça ne s'est pas passé à Copenhague, par exemple.
Eh bien, en partie, à Copenhague, il y avait une présence, mais justement, nous avons tiré les enseignements de Copenhague. Enfin, Laurence était à Copenhague, elle le dira mieux que moi. Mais justement, parce que nous avons vécu Copenhague, nous souhaitons faire différemment. Et l'une des premières décisions qui a été prise par Laurent Fabius et par le comité de pilotage ministériel a été justement d'associer très largement cette société civile. Nous sommes ouverts au dialogue, nous écoutons et nous sommes en permanence au contact de, comme l'a dit Romain, depuis 2 ans, de tous ceux qui vont être les acteurs de cette COP21.
Rarement une négociation aura été aussi ouverte, Frédéric Martel. Et quand on compare avec d'autres négociations internationales, par exemple celle sur le nucléaire iranien, vous avez là une négociation qui est transparente, ouverte, les documents sont communiqués et vous parliez d'accréditation, il ne sera pas nécessaire forcément d'être accrédité pour participer à cette conférence, puisque grâce au net, grâce aux nouvelles technologies, et Pierre-Henri pourrait vous détailler le dispositif de lié aux nouvelles technologies et aux communications qui sera prévu sur le lieu de la conférence, l'ensemble des citoyens pourront suivre par image, par son, par photo, par vidéo, ce qui va se dérouler à Paris. Cette conférence est une conférence ouverte.
En même temps, 50 000 personnes dans le même endroit. Il y a un moment aussi où il faut effectivement gérer la capacité physique et la capacité de concentration des négociateurs pour finir à temps le 11 décembre.
Bien, eh bien nous y sommes. On reviendra sur ce sujet dans une émission avec justement le OFF, si on peut dire, les coalitions et autres organisations. Et puis on aura l'occasion aussi, tout au long de la COP sur France Culture, de vous accompagner, madame, messieurs, par rapport à ces nombreux débats. So surreal, I can't survive if this is all that's real. All I wanna do is get high by the beach, get high by the beach, get high. All I wanna do is get by the beach, get by, baby, baby, bye bye. The truth is. Troublante. et envoûtante Lana Del Rey de retour cette semaine pour un nouvel album Honeymoon, et ce titre pas moins envoûtant pour terminer cette émission High by the Beach. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous Laurence Dubiana, ambassadrice de France chargée des négociations climatiques. Merci à Pierre-Henri Guignard de l'organisation, donc de la COP, secrétaire général, et Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay. Merci aussi à Marjorie Paillon et Pierre Aski. Dimanche prochain, nous parlerons de Criteo, une société française à succès, bien que notamment installée dans la Silicon Valley, et puis du Front National dans le secteur de la culture. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'Alphabet Numérique, sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman, à la régie Alexandre Dang. Soft Power, une émission de Frédéric Martel, réalisée ce soir par Perret Legras. Demain matin, dans la matinale de France Culture, Guillaume Herner s'intéressera aux résultats des élections grecques qui se sont déroulées et dont les résultats seront connus dans un instant, tout à l'heure, donc en début de soirée. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.